Chapitre 2e. Les deux premières tragédies de Corneille ne se rattachent nullement, j'en conviens, à la doctrine que le poète devait embrasser bientôt. Clitandre est moins une tragédie qu'une comédie de cap et d'épée. Quant à Médée, œuvre déjà et incomparablement supérieure à Clitandre, il est difficile d'y voir une pensée générale, encore moins un système, une théorie dramatique. Médée, personnage intermédiaire entre le ciel et la terre, Médée, l'incantatrice, la grande déesse des Colques, la sorcière qui disputait à Thétis le prix de la beauté, qui guérit la démence d'Hercule et voulut empoisonner Thésée, cette Médée n'a rien de politique, et Corneille, pas plus que Sénèque son devancier, n'a eu le dessein de chercher quelque chose d'humain dans cette locuste des dieux. C'est avec le Cid que Corneille entre dans la tragédie politique. Quel est le vrai sujet, je ne dis pas le roman, du Cid? Tout le monde le sait, un jeune homme a tué en duel le père de sa fiancée. La fiancée poursuit celui qu'elle aime, et c'est le roi qui est le juge. L'intérêt politique de la pièce est dans l'arrêt que le prince doit rendre. Cet arrêt est tout entier contenu dans ce vers. Les morts, en fuyant, ont emporté son crime. Déjà, vous le voyez, Corneille affirme cet intérêt supérieur de l'État qui sera la règle de sa politique. Mais dans le Cid, la question n'est pas douteuse. Il est certain que le crime de Rodrigue n'en est pas un, et qu'il y a quelque chose de factice, ou plutôt que tout est factice dans la colère de Chimène. Un duel n'est pas un crime, et l'intérêt de l'État n'a aucune peine à l'emporter contre les réclamations de Chimène, complice elle-même de l'arrêt qui doit la donner au vainqueur de son père. Corneille l'a bien senti. C'est pourquoi, immédiatement après le Cid, il donne Horace. Ici, la doctrine cornélienne s'affirme avec une netteté, une force bien plus grande que dans le Cid. Horace, en tuant sa sœur Camille, après les fameuses imprécations, est coupable doublement. Il frappe sa sœur au lieu de la plaindre et de l'excuser d'une fureur où elle a pour excuse la mort de son amant. Et il cède à une sorte de dépit barbare en voyant que Camille est insensible au triomphe de son frère. Cependant le roi, c'est-à-dire le poète, lui pardonne. L'intérêt public couvre la faute personnelle et le roi ne farde pas sa pensée. Cette énorme action faite presque à nos yeux outrage la nature et blesse jusqu'aux dieux. Un premier mouvement qui produit un tel crime ne saura lui servir d'excuse légitime. Les moins sévères lois en ce point sont d'accord, et si nous les suivons, il est digne de mort. Oui, mais Horace a sauvé Rome, et cela suffit pour que le roi Tullus oublie, ou plutôt excuse complètement le crime. Assez d'autres sujets dans toutes les provinces, par des vœux impuissants, s'acquittent vers leur prince. Tous les peuvent aimer, mais tous ne peuvent pas, par d'illustres effets, assurer leurs états. Et l'art et le pouvoir d'affermir des couronnes sont des dons que le ciel fait à peu de personnes. De pareils serviteurs sont les forces des rois, et de pareils aussi sont au-dessus des lois. Qu'elles se taisent donc. Non seulement Tullus excuse le crime, mais il finit par glorifier le criminel. Vis donc, Horace, vis, guerrier trop magnanime. Ta vertu met ta gloire au-dessus de ton crime. Sa chaleur généreuse a produit ton forfait. D'une cause si belle, il faut souffrir les faits. Vis pour servir l'État. Servir l'État. C'est en cela que se résume la politique cornélienne. Mais l'œuvre où cette politique est expliquée avec le plus de force et de grandeur, c'est certainement Cinna. Le poète justicier, placé en face de la tyrannie, n'a que deux parties à prendre, la punir ou la convertir. Dans Héraclius, Corneille la punira. En attendant, il la convertit. C'est le sujet de Cinna. Auguste est frappé du coup le plus rude qui puisse atteindre un bon roi. Les êtres qui lui sont le plus chers conspirent sa mort, et le poète blâme. Qui ? Les conspirateurs ? Non. Il condamne celui qu'on attaque. Pourquoi ? Parce que dans Auguste il y a Octave. Parce que l'empereur doux et bon a été le proscripteur impitoyable que l'histoire ne peut oublier. Le crime d'Émilie et de Cinna a pour excuse les crimes d'Octave, et Auguste est bien forcé de se l'avouer à lui-même. Quoi ? Tu veux qu'on t'épargne et n'a rien épargné ? Remets dans ton esprit, après tant de carnage, de tes proscriptions les sanglantes images, où toi-même, détiens, devenu le bourreau, au sein de ton tuteur enfonça le couteau. Et puis, ose accuser le destin d'injustice, quand tu vois que les tiens s'arment pour ton supplice, et que, par ton exemple à ta perte guidée, ils violent des droits que tu n'as pas gardés. Ainsi le passé se dresse devant l'ancien proscripteur. Nul moyen d'échapper au fantôme implacable, et c'est le châtiment d'Auguste d'être forcé de reconnaître que ces assassins d'aujourd'hui sont les vengeurs légitimes de ces assassinats d'autrefois. Pour échapper à ce spectre, il n'est qu'un seul refuge, la clémence. La clémence d'Auguste, c'est le pardon pour Octave. Aussi bien, la récompense d'Auguste ne se fait pas attendre. Émilie, avec une rapidité d'impression où l'élan de la femme se joint à la grandeur de l'héroïne, s'honore de se sentir vaincue. « Ma haine va mourir, que j'ai cru immortelle. Elle est morte. » Le Corneille de notre temps, dans le quatrième acte de Hernani, a trouvé des accents également sublimes pour conseiller la clémence aux puissants de la terre. Charles Quint, quoiqu'il n'ait pas le sanglant passé d'Octave, dira le mot qui vaut le « Soyons amis, Cinna ». Il dira aux assassins qu'il peut châtier « Je ne sais plus vos noms ». Il pourra se retourner vers la tombe de Charlemagne, bonne conseillère de son nouvel empire. « Es-tu content de moi ? Ai-je bien dépouillé les misères du roi, Charlemagne ? Je t'ai crié « Par où faut-il que je commence ?» Et tu m'as répondu « Mon fils, par la clémence. » C'est que, avec la différence des époques, la même lumière éclaire les poètes de grande race. Le code des génies est le même dans tous les pays et dans tous les temps. Cette admirable pensée qui fait de Cinna une des œuvres les plus illustres de l'esprit humain, quelqu'un l'a cependant méconnu, c'est Napoléon. Je disais au commencement qu'il avait compris le caractère nécessairement politique de la tragédie moderne. On sera donc vraiment confondu en lisant les lignes suivantes empruntées aux mémoires si curieuses de Madame de Rémusat. Il n'y a pas à s'y tromper d'ailleurs, la véracité de Madame de Rémusat est hors de doute. On n'invente pas de telles choses, on n'imite pas un tel langage. C'est bien Napoléon qui parle. Quant au poète français, je ne comprends bien que votre Corneille. Celui-là avait deviné la politique et, formé aux affaires, eût été un homme d'État. Je crois l'apprécier mieux que qui que ce soit, parce qu'en le jugeant, j'exclus tous les sentiments dramatiques. Par exemple, il n'y a pas bien longtemps que je me suis expliqué le dénouement de Cinna. Je n'y voyais d'abord que le moyen de faire un cinquième acte pathétique. Et encore, la clémence proprement dite est une si pauvre petite vertu, quand elle n'est point appuyée sur la politique, que celle d'Auguste, devenu tout à coup un prince débonnaire, ne me paraissait pas digne de terminer cette belle tragédie. Mais une fois, Monvel, en jouant devant moi, m'a dévoilé tout le mystère de cette grande conception. Il prononça le « Soyons amis, Cinna ». D'un ton si habile et si rusé que je compris que cette action n'était que la feinte d'un tyran, et j'approuvai comme calcul ce qui me semblait puéril comme sentiment. Il faut toujours dire ce vers de manière que de tous ceux qui l'écoutent, il n'y ait que Cinna de trompé. Ainsi, d'après Napoléon, l'Auguste de Corneille ne serait que le Tartuffe de la clémence. Ce drame sévère et touchant finirait par une pasquinade. Le grand Condé avait tort quand il pleurait en écoutant le « Soyons amis, Cinna ». Non, Condé n'avait point tort. Avant tout, on pourrait défier un acteur de rendre le sentiment que Napoléon prête à Monvel. Le jeu de scène serait impossible, et si un tragédien mal avisé l'essayait, le public ne le tolérerait pas. Mais je suis bien sûr que Monvel n'y a pas songé. C'est Napoléon qui seul a eu et seul pouvait avoir une idée pareille. Remarquez d'abord cette phrase qui montre quelle obsession pesait sur l'esprit de Napoléon. La clémence, qui est une si pauvre petite vertu quand elle n'est pas appuyée sur la politique. Cela veut dire au fond que la clémence sans profit est une niaiserie. Napoléon le pensait du moins, et il voulait que Corneille le pensât comme lui. La magnanimité d'Auguste le gênait, et il a voulu l'abaisser au sentiment le plus ridicule et le plus bas. La tentative de Napoléon s'explique facilement du reste. Les Corneilles, les hommes de la pensée franche et libre sont gênants, en effet, pour les hommes de la force, et il serait commode de chasser les poètes de leurs œuvres comme des législateurs de leur banc. Voilà pourquoi Napoléon a essayé contre Corneille ce petit 18 Brumaire, mais on ne réussit pas toujours. Revenons au théâtre de Corneille sans les commentaires de Napoléon. La mort de Pompée contient une leçon d'un genre différent, mais non moins noble que Cinna. Le respect que le vainqueur doit au vaincu. Pompée vient de mourir assassiné grâce au lâche calcul de Ptolémée. César, avec une magnanimité superbe, Corneille y a mis du sien, César ne témoigne que mépris et indignation au meurtrier de son rival. Il respecte et admire la colère et la douleur de Cornélie qui ne cache point ses projets de vengeance et il ne quittera la terre où son ennemi est tombé qu'après lui avoir élevé un monument digne de lui. De cette même main dont il fut combattu, il verra des autels dressés à sa vertu. Le respect de la défaite, le vainqueur portant le deuil du vaincu, cette terreur mystérieuse qui saisit l'homme dans son triomphe, le dévouement pour les grandeurs tombées, le mépris pour les lâchetés des politiques à cœur bas et à vue plus basse encore, c'est le sublime enseignement que nous donne cette tragédie, la mort de Pompée. Il y a, je crois, 15 ans qu'elle est reparue un jour sur l'affiche du Théâtre français, on ne l'y a plus revue. Dans ses premières tragédies, Corneille avait peint les nobles sentiments que la politique peut inspirer, le patriotisme du vieil Horace, la clémence d'Auguste, la magnanimité de César. Maintenant, il mettra sous nos yeux ce que la politique peut jeter dans les âmes de honteuses faiblesses ou de criminelles pensées. La raison d'État, détournée de son sens, deviendra la source de tous les forfaits pour les rois et de toutes les douleurs pour les peuples. Rodogune est à coup sûr la plus effrayante peinture qui ait été faite de l'ambition mauvaise, de la politique coupable. Et pour lui donner plus de relief, Corneille a mis ce qu'il y a de plus horrible dans ce qu'il y a de plus grand et de plus doux dans le cœur d'une mère. La reine Cléopâtre veut régner sous son nom ou sous le nom de ses fils, mais elle ne trouve point en eux de dociles instruments, et ce ne sont plus à ses yeux que des ennemis. Elle fera tuer l'un, elle tentera d'empoisonner l'autre. La soif de régner s'est tournée en rage dans cette âme de louve. Elle court à la vengeance comme Messaline à la débauche, elle a l'hystérie de l'ambition et de la haine. Quand elle a bu le poison préparé pour son dernier fils, l'approche de la mort ne fait qu'exalter sa passion de bête fauve, on dirait le dernier râle d'une tigresse. Règne, de crime en crime, enfin te voilà roi. Je t'ai défait d'un père et d'un frère et de moi. Puisse le ciel tous deux vous prendre pour victimes et laisser choir sur vous les peines de mes crimes. Puissiez-vous ne trouver dedans votre union qu'horreur, que jalousie, que confusion. Et pour vous souhaiter tous les malheurs ensemble, puisse naître de vous un fils qui me ressemble. Le génie de Corneille a trouvé ce qui doit rendre éternellement exécrable la fureur politique, elle tue la maternité. Dans Héraclius, Corneille ne s'est pas proposé de ramener au bien l'âme d'un tyran, comme dans Cinna. Cette fois, il s'agit de punir le despotisme et l'usurpation par un châtiment aussi grand que le crime. Phocas explique lui-même, dès la première scène, l'origine de son pouvoir. « Mon trône n'est fondé que sur des morts illustres, et j'ai mis au tombeau pour régner sans effroi tout ce que j'en ai vu de plus digne que moi. » Eh bien, c'est par cet effroi qu'il redoute que Phocas sera châtié. Il tient tout dans sa main, mais il a compté sans ce qu'il croit le plus faible au monde, la haine légitime d'une femme. Léontine a caché sous un faux nom le fils du tyran pour l'armer un jour contre son père. Je ne l'ai conservé que pour le parricide. C'est à de telles mains qu'il nous faut recourir. C'est par là qu'un tyran est digne de périr. Et le courroux du ciel, pour en purger la terre, nous doit un parricide au refus du tonnerre. Léontine pousse encore plus loin la vengeance. Elle veut que Phocas soit le confident du terrible dessein qu'elle a formé. Le secret n'en est su ni de toi ni de lui. Tu n'en sauras non plus les véritables causes. devine si tu peux, et choisis si tu l'oses. L'un des deux est ton fils, l'autre est ton empereur. Tremble dans ton amour, tremble dans ta fureur. Je te veux toujours voir, quoique ta haine fasse, craindre ton ennemi dedans ta propre race, toujours aimer ton fils dedans ton ennemi, sans être ni tyran, ni père qu'à demi. Le supplice est horrible et cruel, mais il faut que le despote ressente à son tour les transes affreuses où il a plongé si souvent tant d'autres hommes. Phocas ne meurt pas de la main de son fils, mais le tyran a vécu quelques heures dans ce doute effroyable. Puis il meurt, frappé par un des principaux instruments de son long despotisme. Et tant de soldats qui lui servaient d'appui, Phocas, après sa mort, n'en a pas un pour lui. Attila, qui ne sorte point, malgré le badinage de Boileau et le dédain de Voltaire, indigne de Corneille, nous offre une leçon qui, pour être peu écoutée, n'en est pas moins utile. Il y a, pense Corneille, quelque chose de plus odieux que la force injuste et triomphante, c'est la force qui appelle la ruse à son aide. Attila n'a pas dompté les peuples seulement par le nombre de ses soldats. Il a eu l'art de diviser d'abord ceux qu'il voulait vaincre. Le tigre a eu des habiletés de renard, et il a pris l'habitude de toujours mêler l'astuce à la fureur. Cette habitude est devenue pour lui une seconde nature, si bien qu'il se sert de la ruse, même quand elle n'est plus nécessaire et lorsque la violence suffirait. C'est par là qu'il périt. Son génie fatal s'épuise dans les mesquineries du despotisme. Il tend des pièges à deux princes qui dépendent de lui et à deux princesses qu'il pourrait jeter sur son lit de guerre. Il travaille à les diviser, comme il travaillait à diviser les Romains et les Visigoths. Il prépare le meurtre avec des subtilités de légiste byzantin et il combine son mariage, comme jadis il a tué son frère, au milieu de toutes sortes de trames obscures. S'il avait le don de lire dans l'avenir et de choisir pour lui-même quelques métamorphoses, il demanderait à Dieu de revivre dans Louis XI. C'est pourquoi le poète le punira en lui infligeant une mort indigne de ce formidable ravageur du monde. L'histoire permettrait de le faire mourir assassiné. Corneille choisit l'autre version. Il le fait mourir dans l'ivresse de la rage, dans un hoquet de sang, comme un soldat pris de vin qui tombe en trébuchant. Et sa fureur dernière, épuisante en d'horreur, venge enfin l'univers de toutes ses fureurs. Ces trois drames, ces trois études de monstres, Rodogune, Héraclius, Attila, n'ont pas détourné Corneille de son dessein général qui est de représenter surtout les grandes choses et les grands hommes de la politique, de nous inciter à la vertu, à la noblesse, à la hauteur de l'âme, en mettant sous nos yeux les héros qui en ont donné l'exemple. Le sujet de Sertorius est un des plus délicats que le poète puisse se proposer, qu'il écrive sous une monarchie ou sous une république. Quelle doit être l'attitude des chefs d'armée au milieu des divisions politiques de la patrie ? Toute la pensée de Corneille est dans la grande scène du troisième acte, dans l'entrevue de Sertorius et de Pompée. Sertorius est du parti de Marius, qui se soutient encore en Espagne. Pompée est le général du parti de Sylla. Cependant, loin de se haïr, les deux chefs d'armée ont l'un pour l'autre une estime qui ressemble à de l'amitié. L'inimitié qui règne entre nos deux parties n'y rend pas de l'honneur tous les droits amortis. Comme le vrai mérite a ses prérogatives, qui prennent le dessus des haines les plus vives, l'estime et le respect sont de justes tributs qu'aux plus fiers ennemis arrachent les vertus. Il faudrait citer toute cette scène. L'idée du poète est d'ailleurs mise en pleine lumière, au dénouement, par la noble conduite de Pompée qui refuse de rallumer la guerre. Rome, en deux factions trop longtemps partagées, n'y sera point pour moi de nouveau replongée. Et quand Sylla lui rend sa gloire et son bonheur, je n'y remettrai point le carnage et l'horreur. Tout le devoir des hommes de guerre pendant les troubles civils est dans ces quelques vers. Le devoir, mais rien que le devoir. Aucune haine, aucun excès dans la répression. Une mâle tristesse quand il faut mettre la force au service du droit, et par-dessus tout la fidélité au drapeau, sans laquelle un général n'est plus qu'un mercenaire. Le plus juste parti, difficile à connaître, nous laisse en liberté de nous choisir un maître. Mais quand ce choix est fait, on ne s'en dédie plus. Sertorius fut représenté en 1662. Turenne et Condé l'ont vu sans doute, et la scène entre Sertorius et Pompée a dû leur plaire. Puisse-t-elle plaire aux Turenne et aux Condé de tous les temps? Ce ne sont pas seulement les généraux qui doivent sacrifier leur intérêt au bien de l'État, ce sont les rois eux-mêmes, les rois surtout, et Corneille le leur enseigne dans Pulchérie. L'impératrice Pulchérie aime Léon, mais l'intérêt public veut qu'elle épouse Marcian. Elle n'hésite pas et, sacrifice plus difficile encore, elle marie Léon, qui résiste en vain à la fille de Marcian, afin que Léon, avant d'être empereur à son tour, reçoive les leçons et trouve l'appui de son beau-père. Étudiez sous lui ce grand art de régner, que tout autre aurait peine à vous mieux enseigner. Il faut être empereur, et le sceptre à la main justifier mon cœur, montrer à l'univers, dans le héros que j'aime, tout ce qui rend un front digne du diadème, vous mettre à mon exemple au-dessus de l'amour, et par mon ordre, enfin, régner à votre tour. Cette idée de sacrifice, de dévouement imposé au prince par le devoir, Corneille l'a reprise dans Othon, et pour rendre le sacrifice plus touchant, c'est encore une femme qui s'y résigne. « Adieu, » dit Plotine à Othon. « Adieu, donnez la main, mais donnez-moi le cœur. Ou si c'est trop pour moi, donnez l'un et l'autre. Emportez mon amour et retirez le vôtre. Mais dans ce triste état, si je vous fais pitié, conservez-moi toujours l'estime et l'amitié, et n'oubliez jamais, quand vous serez le maître, que c'est moi qui vous force et qui vous aide à l'être. » Il est remarquable que les femmes, dans Corneille, maintiennent la politique à sa vraie hauteur, tandis que les hommes l'en font souvent descendre. Dans Sophonisbe, deux princes, Syphax et Massinis, font céder la politique à l'amour, malgré Lélius qui proclame qu'un prince doit repousser l'amour comme un lâche attentat dès qu'il peut prévaloir sur la raison d'État. Sophonisbe, au contraire, ne voit qu'une chose, la honte d'entrer à Rome et d'y entrer attaché au char du vainqueur. Elle gardera pour mari celui qui la sauvera de cette honte. Et lorsque Massinis lui envoie le poison, qui est pour elle le dernier moyen d'échapper à l'esclavage, elle répond avec un fier dédain « Voilà de son amour une preuve assez ample, mais s'il m'aimait encore, il me devait l'exemple. » Dans Pertharite également, c'est la femme qui personnifie la noble politique. Rodelinde, femme de Pertharite, détrônée par le comte Grimoald, explique ainsi ses sentiments envers l'usurpateur. Il est vaillant, il règne, et comme il faut régner, mais toutes ses vertus me le font dédaigner. Je hais dans sa valeur l'effort qui le couronne, je hais dans sa bonté les cœurs qu'elle lui donne. Et le hais d'autant plus que je vois moins de jours à détruire un vainqueur qui règne avec amour. Rodelinde le dit en face à Grimoald lui-même. Garde donc ta conquête et me laisse ma gloire, respecte d'un époux et l'ombre et la mémoire. Tu l'as chassé du trône et non pas de mon cœur. Malheureusement, cette fois, Corneille a été trop loin. Il a rendu trop odieux et même ridicule le rôle des hommes. Garibaldi, duc de Turin, est le devancier de l'Oreste d'Andromaque. Mais il y a en lui quelque chose de vil et de froid dans la passion. Quant au rôle de Pertharite lui-même, Corneille, dans l'examen, le condamne, quoiqu'il essaye de le défendre, avec cette bonhomie narquoise qui est un des côtés de sa nature. « On a pu supporter, dit-il, qu'un roi, dépouillé de son royaume, après avoir fait tout son possible pour y rentrer, se voyant sans force et sans amis, en cède à son vainqueur les droits inutiles, afin de retirer sa femme prisonnière de ses mains. Tant les vertus d'un bon mari sont peu à la mode. » Corneille a beau sourire, le public avait raison contre lui. Le parterre blâmait justement Pertharite, cédant sa couronne pour reprendre sa femme, mais il n'avait pas blâmé Polyeucte, remettant sa femme à Sévère par un effort d'héroïsme surhumain. Corneille, après avoir montré la raison d'État sous ses aspects nobles ou terribles, a voulu nous la montrer sous des aspects touchants et même charmants. De là, Nicomède et Don Sanche d'Aragon. Nicomède, c'est la rivalité de deux frères qu'un droit égal au trône pourrait rendre de cruels ennemis, et qu'une pareille grandeur d'âme réunit malgré la politique de leur père et de leur mère. Rien n'est plus noble et plus touchant que le caractère de Nicomède et de son frère Attale, et la puissance en est telle que ce beau spectacle force l'admiration du roi et de la reine qui renoncent à leur funeste dessein. L'âme des pères, refaite par les enfants, le fleuve remontant à sa source pour la purifier, le bien enfanté par le mal et le bien transformant le mal, il n'est pas de philosophie plus haute, plus douce et, espérons-le, plus féconde. Don Sanche d'Aragon, c'est le charme, c'est la grâce dans la politique. Carlos est un héros, mais il ne connaît pas ses parents. La reine Isabelle l'aime et elle lui donne rang dans le conseil qui doit lui choisir un mari. Mais les rivaux de Carlos lui contestent le droit de s'asseoir à côté d'eux. Carlos leur répond par ses admirables vers, qui sont d'un sentiment démocratique bien avancé pour le temps de Corneille. « Ce par qui voudra du nom de ses aïeux. Moi, je ne veux porter que moi-même en tout lieu. Je ne veux rien devoir à ceux qui m'ont fait naître, et suis assez connu sans les faire connaître. Mais, pour en quelque sorte obéir à vos lois, Seigneur, pour mes parents, je nomme mes exploits. Ma valeur est ma race, et mon bras est mon père. » Don Manrique résiste toujours. Non, la reine même ne peut anoblir Carlos. Ce rang n'est dû qu'aux hautes dignités. Tout autre qu'un marquis ou comte le profane. Alors Isabelle, se tournant vers Carlos avec un sourire de reine et de femme, « Eh bien, soyez donc, marquis de Santillane, comte de Penafiel, gouverneur de Burgos. » Don Manrique, est-ce assez pour faire soir Carlos ? Mais Isabelle, qui n'a pas seulement la majesté d'une reine, qui a l'ingénieuse malice d'une femme, imagine un stratagème des plus spirituels. Elle charge Carlos lui-même de choisir son mari. « Je veux qu'aujourd'hui même il puisse plus que moi. J'en ai fait un marquis, je veux qu'il fasse un roi. » Cette comédie héroïque, Don Sanche d'Aragon, entre Rodogune et Attila, ressemble à une arabesque de perles fines aux pommeaux de l'épée tragique. Ce sont ces perles qui manquent au théâtre de Racine. La plaintive Iphigénie et la tendre Attalide ne valent pas cette souriante et gracieuse Isabelle qui monte à son trône de pourpre et d'or, sous un dais de fleurs, dans un nuage de parfums. Corneille, qui devait toucher à toutes les questions politiques, ne pouvait oublier la plus redoutable, la politique religieuse. Il s'est approché deux fois, avec la décision des esprits fermes, de la porte d'airain et de marbre. Il est entré dans ses ténèbres et dans ses rayons, et il en est sorti portant au front cette auréole qui s'appelle Polyeucte. Je parlerai peu de Théodore, qui est aussi une tragédie religieuse. Le sujet en est trop difficile à expliquer, et il fallait pour l'aborder la candeur du génie cornélien. Une vierge menaçait d'être livrée à la brutalité des soldats si elle ne préfère renoncer à sa foi. Disons seulement que la pensée du poète est tout entière dans la belle réponse de Théodore. Dieu, tout juste et tout bon qui lit dans nos pensées, n'impute point de crime aux actions forcées. Soit que vous contraigniez par vos dieux impuissants mon corps à l'infamie ou ma main à l'encens, je saurais conserver d'une âme résolue à l'époux sans macule une épouse impolue. » Refaite, le dernier vers, dont les mots ont vieilli, est dite « À l'époux sans opprobre, une épouse sans tache, et vous aurez une tirade digne du Corneille de Polyeucte. » Polyeucte, dans la pensée de Corneille, ne représente pas seulement l'enthousiasme chrétien, la soif du martyr, la fuite d'une âme éperdue loin des honteux attachements de la chair et du monde. Polyeucte représente encore et surtout peut-être la plus haute aspiration de l'idée religieuse, la doctrine de la tolérance, c'est-à-dire de la clémence mutuelle. Félix personnifie l'intolérance, l'entêtement systématique, le dédain de l'opinion et de la foi d'autrui. Sévère personnifie la tolérance. C'est Félix qui est vaincu dans cette lutte. Non seulement il est trompé dans les calculs de sa vie politique, mais il est transformé et comme transfiguré dans l'auréole de ceux dont il a ordonné la mort. Il fait partie de cette grappe d'âmes, selon la belle expression de M. Legouvé, que Polyeucte emporte avec lui vers le ciel. Sévère, au contraire, tout en restant païen, n'en représente qu'avec plus de force la nécessité comme la justice de la tolérance, et il parle des chrétiens, ainsi que tout esprit généreux doit parler des persécutés et des vaincus. « Je les aimais toujours, quoi qu'on en ait pu dire. Je n'en vois point mourir que mon cœur n'en soupire, et peut-être qu'un jour je les connaîtrai mieux. J'approuve cependant que chacun ait ses dieux, qu'il les serve à sa mode et sans peur de la peine. » Voilà Polyeucte, voilà Corneille, voilà le penseur, le philosophe, le juste, le poète, le politique s'élevant d'un coup d'aile vers l'immuable équité. Corneille, n'eût-il écrit que Polyeucte, aurait sa place parmi les hommes qui ont le plus fait pour le calme des cœurs et l'apaisement des esprits. Mais, cette rapide étude suffit, j'espère, à le prouver, il a fait plus encore. Il a prononcé ce qu'on pourrait appeler l'arrêt dramatique sur les questions les plus ardentes de la politique humaine. Il a montré quels sont les devoirs au roi, aux chefs d'armée, aux simples citoyens, aux vainqueurs, aux vaincus, aux peuples heureux ou désespérés. Il a descendu et remonté tous les échelons de l'échelle rayonnante et sombre qui, partant de la terre où rampent tous ces monstres qu'on appelle nos vices, va se perdre. Pour emprunter à Victor Hugo une de ses plus magnifiques images, dans cette radieuse et bleue éternité dont l'âme humaine est l'hirondelle. Je n'ai voulu étudier ici que le côté politique des tragédies de Corneille. Le côté historique n'en serait pas moins intéressant. Mais M. Ernest Desjardins a déjà rempli cette tâche avec science et autorité. La morale, dans Corneille, offrirait aussi un vaste sujet d'étude. À d'autres points de vue encore, on pourrait s'arrêter devant ce mâle et austère génie qui, s'il n'avait eu l'embarras d'une langue à former et d'un théâtre à fonder, eût dépassé la mesure commune des plus hauts esprits. C'est La Bruyère qui écrit ce mot bon à méditer. Tels peuvent être loués de ce qu'ils ont fait et tels de ce qu'ils auraient fait. Corneille peut être loué de ce qu'il a fait et de ce qu'il aurait fait. Qu'on relise donc Corneille et qu'on représente ses œuvres le plus possible. On a répété souvent que le théâtre de Corneille était le bréviaire des rois. Plusieurs ne l'ont pas assez lu dans ces derniers temps. Que le peuple le lise davantage, c'est calomnier et vouloir abaisser les démocraties que de les inviter aux frivolités et aux bassesses d'un certain art. « Où vas-tu ? » disait un jour Lienne au lion. « Je vais boire dans la montagne. »« L'eau y est rare, » dit Lienne. « Elle est pure, » dit le lion. Ainsi s'achève La politique dans Corneille, d'Henri de Bornier.